se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de dorade royale filière Auchan Cultivons le Bon est à seulement 6,49€.
À ce prix-là, j'invite mes amis à dîner demain soir. Je vais leur faire ma recette de dorade au four.
J'en connais qui vont se régaler comme des rois.
Vous voulez venir ?
Ah bah oui ! Auchan, avec plaisir. 6,49€, le kilo de dorade royale filière Auchan Cultivons le Bon. Élevé en Grèce, pièce de 300 à 600 grammes. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
RMC, midi 14h.
Brunet Neumann.
Éric Brunet.
Laurent Neumann.
Salut les amis, c'est Laurent Neumann.
Bonjour mes petits amis, c'est Éric Brunet avec une émission un peu particulière à Brunet Neumann sur RMC, un peu particulier puisque l'intersyndicale aujourd'hui du groupe Next Radio auquel appartient RMC a lancé un mouvement de grève de 24 heures suite à une décision de la direction de procéder à des licenciements. Mesdames, Messieurs, c'est vrai que c'est un moment un peu important dans la vie d'RMC parce que moi ça fait 10 ans à titre personnel que je suis là, il n'y avait jamais eu de grève, on n'a pas tellement la culture de la grève dans cette boîte et aujourd'hui beaucoup de journalistes ont estimé qu'il fallait faire grève. Donc on voulait vous le dire, mesdames, messieurs, néanmoins on est là et si nécessaire nous parlerons d'ailleurs
ça marque l'inquiétude légitime des salariés du groupe après l'annonce d'un plan d'économie drastique et notamment de plusieurs centaines de suppressions d'emplois et l'attachement d'ailleurs de tous ceux qui font partie de ce groupe à cette radio et à toutes les antennes de cette maison.
C'est ce qu'il faut dire, je l'ai dit, mais c'est qu'on n'a pas une culture de gréviste. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, c'est pour ça qu'on a décidé de le dire. Voilà. Mon Laurent, on va parler de quoi aujourd'hui ? On va parler de cette statue de Colbert vandalisée juste devant l'Assemblée nationale à Paris. Est-ce que ça vous choque, mesdames, messieurs ? Vous avez pu voir des images, vous avez eu ce tag, « Négrophobie d'État » en grosses lettres rouges peintes à la bombe de peinture. Et c'est vrai que beaucoup d'entre vous ont souhaité réagir à ce sujet.
RMC,
l'avis de Laurent Neumann.
Alors, Eric, moi, tu sais, tu as compris, je suis pas du tout favorable à l'idée de déboulonner des statues, même de rebaptiser les noms de rue. En revanche, je suis absolument favorable à la pédagogie. Tiens, je vais te prendre un exemple. Tu sais que certains veulent débaptiser les rues Gallieni. Pourquoi ? Parce que Gallieni, à Madagascar, par exemple, il est considéré comme un massacreur, comme un type qui a utilisé des méthodes absolument insupportables, brutales, etc., violentes. Très bien. Mais le même Gallieni, c'est celui qui, toi, tu connais l'histoire par cœur, c'est celui qui a réquisitionné les taxis de la Marne. Et il se trouve qu'il est
décédé. En 1914.
En 1914. Et il se trouve qu'il est décédé pendant la Première Guerre mondiale, en 1916, et que pour ce fait d'armes-là, il a été élevé au rang de maréchal en 1921. Bon, est-ce qu'on doit débaptiser les rues Gallieni ? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il faut apprendre l'histoire aux jeunes et à l'ensemble des Français. Bref, faire la pédagogie plutôt que de déboulonner les statues.
RMC,
l'avis d'Éric Brunet.
Ah, il y a un truc qu'on apprend quand on fait une fac d'histoire, c'est que la pire des choses, c'est la décontextualisation. C'est-à-dire juger un homme du XVIIe siècle comme Colbert avec notre regard du 21e siècle. C'est sûr qu'avec la logique aujourd'hui, je sais pas, MeToo ou LGBT, quand on regarde ces gens, on se dit, mais mon Dieu, ce sont de dangereux esclavagistes, etc. Bon, c'est pour ça que je me méfie beaucoup de ça. Colbert, qu'on accuse aujourd'hui d'avoir fait ce code noir, qui est un code, n'est-ce pas, qui régit les rapports entre les esclaves et les maîtres dans les îles colonisées, si je puis dire, de françaises de l'Amérique, bien évidemment, aujourd'hui c'est inregardable le code noir. Tout esclave noir qui s'enfuyait devait avoir les oreilles coupées. Donc t'imagines, avec notre regard aujourd'hui, ça fait vomir. Mais on ne peut pas justement porter de jugement avec notre regard d'aujourd'hui. Ce que Colbert portait comme idée à l'époque, c'était les idées de la totalité de la société française, de la société européenne, de la société blanche. Et puis après tout, Colbert était là sous Louis XIV. Alors Louis XIV a donc permis ça. Donc pourquoi ne pas aller taguer ou détruire le château de Versailles ? Vous voyez ? Donc pour moi, la décontextualisation, sortir un homme de son contexte du XVIIe siècle pour le juger avec notre regard d'aujourd'hui, c'est débile.
Alors vous avez compris les amis, on n'a pas les mêmes arguments avec Eric, mais on est d'accord sur le fond. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous ? On va tout de suite voir comment vous votez.
RMC, Brunet Neumann.
Votez maintenant pour le qui tu choisis.
Salut jeune Lisa Marie.
Bonjour Laurent. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Je vais bien.
Tu es en forme. Alors dis-nous tout, comment on fait pour voter ?
Alors oui, donc vous avez entendu, on vous pose la question, est-ce que la statue de Colbert qui a été vandalisée devant l'Assemblée nationale, est-ce que ça vous choque ? Éric et Laurent sont d'accord ? Ils répondent oui. Et vous, qu'en pensez-vous ? C'est le moment de les départager, de voter, enfin de voter, plus que de ne pas les départager. Pour cela, rendez-vous sur rmc.fr et l'application RMC et sur nos réseaux sociaux, la page Facebook Brunet Neumann, les Twitter d'Éric et Laurent et la page Instagram RMC Off.
RMC, midi 14h, Brunet Neumann.
Appelez le 3216 pour débattre avec eux.
Alors. Et on est avec Marie. Marie qui nous appelle de Marseille. Bonjour Marie.
Bonjour Marie.
Ah, on n'a pas Marie.
Si, elle est là.
Ici, elle est là.
Salut, Marie. Marie. Voilà. Voilà, elle est là. Tu vois, il fallait être patient. Bonjour Marie.
Comment vous allez ?
Très bien.
Écoute, ça va, pas mal. Bon. Et toi ?
Et toi ?
Eh bien, pas mal non plus.
Est-ce que c'est la canicule à Marseille ?
Il fait chaud.
Hein. Il doit faire chaud. Hein. Bon,
oui,
dis-moi, cette statue de Colbert qui a été vandalisée devant l'Assemblée nationale, enfin qui a été taguée, est-ce que ça te choque ou pas, Marie ? Argument.
Oui, ça me choque. Oui, ça me choque dans la mesure où ça fait partie de notre histoire. Mmh. Et que moi, alors je suis comme vous, hein, je dis, il faut justement se servir de ça pour enseigner aux enfants ce qui était. Ce qui se passait avant, mais qu'aujourd'hui, on vit quand même en France, un pays formidable, où on reçoit tout le monde quand même. Mmh. On manque du moyen-là qui manque de travail, manque de manger, manque. Mais quand même, c'est pas trop mal. La France, on n'est pas trop mal. Et je vois qu'on est toujours en train de se plaindre. Et de ce fait, il faut que, je sais pas moi, dans les écoles, se servir de l'histoire pour pouvoir dire, d'éduquer les enfants, de savoir comment ça s'est passé, mais pas la rébellion. Ça ne sert à rien. Mmh. Au contraire, ça fait que monter les uns contre les autres.
Alors, Marie...
on en arrive là.
Mmh. Ah, je suis d'accord avec toi.
Voilà, ça devient problématique. Moi, j'ai grandi dans les quartiers populaires à Toulouse, au Mirail. On était blanc, noir, gris, jaune, vert, on était on n'avait pas cet esprit-là. Il n'y avait rien de tout ça. Aujourd'hui, ça devient conflictuel. Vous êtes blanc, vous êtes obligé d'être avec les blancs. Vous êtes noir, vous êtes obligé d'être avec les blancs. Enfin, oui. Ça devient une catastrophe. J'ai 49 ans. Je n'ai jamais eu... Enfin, moi, je suis raciste, mais envers les cons. Voilà. Et ce qui amène tout ça. Ce qui amène ce bazar, en fait.
Oui. C'est marrant ce que tu dis, parce que c'est Eric, là. Moi, je suis choqué depuis des années quand je vois des films américains, parce que très souvent, dans le film américain, l'acteur noir, Denzel Washington, qui tu veux, il est marié à une femme noire et il a des enfants noirs. Chez nous, je ne sais pas si on a eu la même jeunesse, mais moi, j'ai beaucoup voyagé, mes parents travaillaient à EDF, on déménageait tous les deux ans. Dans les écoles que j'ai fréquentées, jamais, j'ai vu ça. Souvent, un mec d'origine arabe était marié à une nana de Bourgogne ou une bretonne, un noir était marié à une blanche.
On n'a pas la même culture. Déjà, on n'a pas la même culture. Moi, je suis allée à New York... une dizaine de jours, je peux vous dire que c'est pas la même culture, on ne vit pas de la même façon, on ne pense pas de la même façon, alors il faut pas ramener ce mode-là, même si on y est obligé de par la technologie et tout ça, mais il faut pas ramener ce mode-là chez nous.
Ouais, alors je rappelle quand même Marie,
pardon Laurent, je le redis, hein, cette phrase qu'elle vient de prononcer pour finir, Marie, il ne faut pas ramener ce monde-là chez nous. Ouais. Pas mal du tout.
Absolument, il y a beaucoup de gens qui veulent importer tout ce qui va mal à l'étranger, l'importer chez nous. Ça, c'est l'absolue vérité. Non, je voulais juste rappeler les faits quand même. En fait, on a retrouvé sur la statue de Colbert, hein, qui est juste devant l'Assemblée nationale, d'abord cette statue, elle a été taguée, mais on a retrouvé sur cette statue les mots « négrophobie d'État ». Et on a découvert que c'était donc ce vandalisme était le fait d'une brigade anti-négrophobie. Il se trouve d'ailleurs que l'auteur du graffiti a été arrêté, mais que ça n'est pas le seul. Hein. La statue du général Gallieni, place Vauban à Paris, a été vandalisée le 18 juin dernier. Le piédestal de la statue du général Federbe, en plein centre de Lille, a été tagué dimanche avec les mots « colon » et « assassin ». Federbe, voilà.
Tu sais ce qui est intéressant, en fait.
Alors Federbe, un mot, mais c'est toujours bien de faire un peu de pédagogie. Federbe, c'était l'administrateur colonial du Sénégal. Mmh. Évidemment, pour beaucoup de Sénégalais, il est un des hommes du colonialisme. Mais Federbe, il a une longue histoire dans l'histoire de France.
Et donc, il y a tellement de choses à combattre aujourd'hui. l'inégalité féminine, les salaires. Mais il y a tellement de choses actuelles qu'il faudrait, auxquelles il faudrait se battre. Le passé, c'est le passé. On doit s'en servir comme un feedback, quelque chose qui nous rappelle. Qui nous rappelle quelque chose. Mais là, on a tellement de causes à se battre.
Dans ce cas, je sais pas, la Révolution française, tiens, qui a oublié quand même de donner le droit de vote aux femmes. Je te rappelle que le premier président de la République en France est élu au milieu du 19e siècle. Et les femmes, tous les Français votent, sauf les femmes. Donc on pourrait aussi dire, à partir de maintenant, c'est fini la Révolution française, on la déconsidère et on dit que c'est un drame, etc. Donc si tu veux, je suis d'accord avec toi, Marie. Si on va chercher des noises à Colbert, allons chercher des noises à tous les rois de France et à tout le monde, voilà.
Moi, j'ai une idée, c'est qu'on met à la place des statues, on met des nouvelles sculptures modernes, art déco, trucs-muches. Les rues, on met que des chiffres ou des lettres. Comme ça, on n'emmerde personne, en fait.
Oui, c'est pas le monde. Je sais que tu dis ça avec ironie.
On met des calderes, partout.
C'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Marie, on t'embrasse.
Des Jeff Koons et des calderes partout.
tout ce que j'aime pas, en l'occurrence. Marie, on t'embrasse. Je voudrais qu'on comprenne Aliou au téléphone, au 3216.
On l'a déjà eu, je crois, Aliou.
Il nous appelle de Neuilly-sur-Seine.
Oui, Marie, elle m'engueule. Moi aussi.
Ah oui, moi je l'ai reconnue. Je l'ai reconnue, Marie.
Ah, j'espère bien.
Attends, reste un peu, Marie. Non, elle peut rester parce qu'on va.
Ah oui, elle peut rester.
Si jamais Aliou n'est pas d'accord avec elle, on va peut-être les faire débattre ensemble.
Salut Aliou, bienvenue sur RMC.
Salut.
Oui, bonjour messieurs, bonjour Marie. Bien évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec votre auditrice.
Alors explique.
Je ne suis pas trop d'accord avec vous. Déjà, moi, la personne qui a tagué ça, moi, je lui apporte mon soutien. Et je pense qu'ils ont très bien fait de faire ça aujourd'hui. Ce qui devait arriver, arriva. Vous avez dit que ça a été tagué négrophobie d'État.
Ouais, négrophobie d'État, ouais.
Voilà, négrophobie d'État. Et ben, ce matin, sur votre antenne, Richard Ferrand, on a fait l'illustration quand il dit que la dernière grande période où on a déboulonné des statues, c'était pendant l'occupation. Mmh. Ça veut dire quoi, ça, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, la France doit pouvoir regarder son histoire en face, et je pense que la France a un problème avec ça. On ne peut pas baptiser des salles, des collèges, des rues, et mettre des statues sur l'espace public de Colbert. Et vous ne pouvez pas mettre sur le même piédestal un roi qui a fait du sexisme ou qui fut un temps les femmes n'ont pas voté, avec quelqu'un qui a quand même rendu l'esclavage en France, qui a quand même rédigé
le code noir.
Le code noir. Vous pouvez pas mettre ça sur le même pied.
Très bien, Aliou. Alors, j'entends
le code noir. On parlera dans un instant du code noir, si tu veux bien. Je laisse la parole à Aliou, Laurent Neumann.
Je retiens ta phrase parce qu'elle est très forte et elle mérite qu'on s'y attarde un instant. Tu viens de dire, il est normal que la France regarde son histoire, son passé en face. Mais pardon, Aliou.
On fait que
pardon,
ça. Pardon, hein.
Aliou.
On regarde
on
un peu
le
trop.
On ne fait que ça. Et d'ailleurs, comme tu as été à l'école comme moi, tu as sans doute lu attentivement les livres d'histoire et toute cette période coloniale, on la raconte. Et je prenais tout à l'heure l'exemple de Gallieni ou tu prends toi l'exemple de Colbert. On peut dire à la fois de Colbert qu'il est l'homme qui a instauré l'État en France, qui a structuré l'État et c'est très important d'avoir un État fort en France et dire en même temps qu'effectivement il a instauré le code noir. Premier point. Donc cette histoire-là, ça s'appelle la pédagogie et pardon. La France regarde son histoire en face. Deuxièmement, Eric a utilisé tout à l'heure un argument qui me paraît massue. Comment peux-tu, toi, Aliou, en 2020, regarder l'histoire avec tes lunettes de 2020? Mais l'histoire, c'est l'histoire par définition. Alors, on peut faire comme dans les dictatures communistes, naguère, ou comme dans certaines autres dictatures de la planète, rayer de la photo tout ce qui nous dérange. Sauf qu'à la fin, tu sais comment ça se termine. Sur la photo, il ne reste plus qu'une seule personne. Staline avait fait ça très bien. Tous les gens qui le dérangeaient, on les barrait. Bah oui.
Monsieur Neumann, si vous le permettez, le problème, ce n'est pas l'histoire. Le problème, c'est la manière dont elle est racontée et par qui aussi elle est racontée. Et parfois, nous, en tant que Noirs, on a l'impression qu'elle est racontée avec beaucoup de mépris. Quand vous écoutez ce matin Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, mais désolé, un homme blanc
qui vient nous dire que comme quoi, oui, ce qui s'est passé, ça fait partie de l'histoire de France, mais bon, ce n'est pas trop grave. Moi, j'aurais voulu que cet homme-là, en tant que blanc, puisse avoir un autre discours qui soit audible.
Non, mais,
moi, mais c'est bien. Mais attendez, Richard Ferrand, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, ne va pas s'excuser de ce que Colbert a fait en 1685. Enfin, Alliou, réfléchis une seconde.
Non, mais surtout,
Richard Ferrand est responsable.
Surtout, pardon, Alliou. Non,
mais
Alliou.
Alliou, Alliou. Quel mépris. Oui, bah, il fallait l'écouter, franchement.
Moi, je l'ai écouté.
Franchement, c'était beaucoup de mépris. Et désolé, mais désolé. J'ai envie de vous dire que moi, en tant que noir, franchement, quand j'entends ce genre de discours, en tant que français noir aussi, parce que la France, l'histoire de France m'appartient aussi, j'ai l'impression qu'on essaie de me voler une partie de mon histoire. L'histoire, c'est pas le problème, ce n'est pas l'histoire, encore une fois, c'est la manière dont.
Non, mais je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Pour plein de raisons. Un, la France, il se trouve que dans les années 60, t'es peut-être trop jeune, moi j'étais un bébé, le président de l'Assemblée nationale, sous De Gaulle, s'appelait Gaston Monnerville, il était noir. Voilà. Qu'il y a des gens, des grands destins, tout au long du XXe siècle, comme celui de Félix Éboué, et des tas d'autres gens qui sont des gens noirs. Alors je dis pas qu'il y avait plus autant de députés noirs que de blancs à l'Assemblée nationale dans les années 50, 60 ou 70, mais la France, ça n'est pas l'Amérique des droits civiques. Quand tu étais habité à Blois, dans le Loir-et-Cher, dans les années 50 ou 60, que tu étais noir, tu pouvais avoir une liaison avec une dame blonde et puis tout allait bien. D'ailleurs, quand Miles Davis est venu en France, il a eu une relation avec Juliette Gréco et tous les jazzmen noirs qui étaient ostracisés, discriminés à New York, alors que pourtant ils allaient dans les clubs de jazz jouer, eh bien ils rentraient par la porte de derrière. Quand ils venaient en France, ils disaient c'est le paradis, c'est un pays extraordinaire. Donc moi j'en ai marre. On ne peut pas rayer de la carte, pour revenir à l'actualité, le passé, parce que au XVIIe siècle, toutes les sociétés européenne était esclavagiste. Voilà, c'est comme ça. Regarde, alors soyons complètement, allons jusqu'au bout. Tiens, l'Espagne qui a été envahie par les Arabes du 8e siècle au début de la Renaissance, pendant des siècles. Est-ce qu'elle doit donc, ça a été terrible, les Arabes ont tué beaucoup d'Espagnols chrétiens, bien sûr, est-ce qu'elle doit supprimer la mosquée de Grenade? Est-ce qu'elle doit taguer la mosquée de Cordoue? Est-ce qu'on doit abattre la porte d'Alcantara à Tolède, l'Alcazar de Séville? Tout ça, c'est des productions, on va dire, colonialiste des Arabes qui ont envahi l'Espagne. Pourtant, on ne le fait pas. Donc, c'est absurde de dire, de décontextualiser, de dire, regardez, Colbert, c'est un type qui a été extraordinaire. Colbert, il a penser l'État sous Louis XIV. Et donc, il a tout voulu régir à travers des textes. Et effectivement, il s'est dit à l'époque, avec son regard d'homme du XVIIe siècle, je vais faire un texte pour régir les rapports entre les maîtres et les esclaves. Alors, c'est pas bien, bien sûr, puisqu'il y avait la notion d'esclave. Sauf qu'à l'époque, au XVIIe siècle, il y avait pratiquement pas de Français qui disaient l'esclavage, c'est honteux. Pourquoi? Parce que c'est le produit de l'histoire. On sort du Moyen-Âge et il y a des esclaves partout et l'esclavage fait partie de la vie des gens avec mon regard actuel à Liu, moi je dis que c'est horrible, je dis que c'est épouvantable, mais comme j'aime l'histoire, je sais très bien qu'au XVIIe siècle, personne ne disait que c'est épouvantable et que Colbert, il n'est que le reflet de son époque sur cette question-là. Même, c'est ce que je me dis à Liu.
Monsieur Brunet, la question et le débat n'est pas de la place des Noirs dans la République française, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est l'histoire des Noirs aujourd'hui dans notre société actuelle. Et cette histoire-là, elle ne dérange absolument pas. On dit juste une chose, la manière dont l'histoire est racontée de manière pédagogique dans les écoles et aujourd'hui même dans l'espace public gêne des Français, parce que je suis Français, nous sommes Français, et nous avons le droit de dire ça me gêne. Et c'est ce que nous disons. Et arrivé à un moment donné, vous, en tant que blanc, quand je dis vous, c'est vous à l'impersonnel, mais tous ces hommes d'État aujourd'hui...
Mais moi, je ne suis pas en tant que blanc, moi, je ne me vis pas... Oui. Moi, tu serais surpris de la façon dont je me vis. Moi, je me vis comme un immigré de l'intérieur, parce que les Brunets sont restés pendant 1000 ans des fermiers du Gers. Donc, je ne me vis pas comme un blanc, moi. Pas du tout.
Mais quand je dis vous, c'est voile impersonnel. Ouais. Aujourd'hui, tous ces hommes d'État qu'on voit aujourd'hui, ce sont des hommes blancs qui viennent nous dire que comme quoi, mais vous, Français noirs, non, vous ne vous inquiétez pas, ça c'était fut un temps, aujourd'hui nous sommes passés à autre chose, c'est tout ça. Non, on ne peut pas entendre ce genre de discours. Moi, ce genre de discours me révulse, désolé.
Ouais.
Aliou, d'abord, je voudrais qu'on remercie Marie, hein, qui était avec nous, qui nous appelait de Marseille. Mais Aliou, tu sais, je parlais d'histoire, je parlais de la pédagogie, je te parlais même des livres d'histoire à l'école. Je voudrais qu'on prenne Françoise, qui nous appelle aussi.
Votre appel a été mis en attente.
Françoise.
J'adore.
Votre appel a été mis en attente.
Ouais. Allô, Françoise.
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 Bonjour à tous.
Bonjour.
Je ne vais pas m'adresser à chacun d'entre vous et aux auditeurs, mais bonjour à tous.
Non, mais voilà. Françoise, pardon de t'interrompre. Je voulais te prendre en ligne tout de suite parce que tu nous appelles de l'aube. Mais Thomas, qui est au standard, hein, qui vous accueille toutes et tous, me dit que tu es retraitée, ancienne proviseure et surtout ancienne prof d'histoire. Qu'est-ce qu'on donne comme argument à Aliou ?
Eh bien, je vais faire quelque chose qui ne se fait pas, mais je vais parler de mon expérience professionnelle, puis j'étendrai sur la façon dont l'éducation nationale a donné des consignes pour transmettre ces moments de notre histoire. À titre personnel, j'ai enseigné l'histoire au collège et au lycée, et je me souviens très bien avoir parlé du commerce triangulaire, d'avoir mis un focus sur la ville de Nantes, où effectivement, il y avait des départs de bateaux négriers pour les Antilles. Ça, je me souviens très bien l'avoir fait.
Oui, mais Françoise, Éric Brunet, à l'appareil, je t'interromps juste une seconde avant de te rendre le micro. J'ai fait mes études à Nantes, j'ai 55 ans, je suis allé à l'école de la République à Nantes. En école primaire, j'étais largement informé de la traite négrière. On en a beaucoup parlé, on a eu énormément d'empathie de la part de nos instituteurs. À l'époque, on disait instituteurs, puis après, à partir de la 6e, de nos profs d'histoire à Nantes qui nous ont expliqué ce que c'était que le commerce triangulaire. Effectivement, on allait donner de la pacotille à l'île de Gorée du côté du Sénégal à des Noirs qui venaient livrer en contrepartie des esclaves qu'on amenait aux Antilles. Dès que j'ai eu 10 ans, j'ai su ça. Dès que j'ai eu 10 ans, comme tous les gamins de ma génération qui ont grandi à Nantes et ailleurs, on a eu conscience de l'esclavagisme, de la violence. Ensuite, dans le château des Ducs, pardon de le dire comme ça, mais dans le château des Ducs de Bretagne, qui est l'histoire de Nantes. Nantes était la capitale de la Bretagne. Dans ce château, au centre de la ville, qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé un musée de l'esclavage qui est au centre du château. On y parle presque plus de Anne de Bretagne, on y parle de l'esclavage et je l'ai visité. Et tous les Nantais le connaissent. Donc les gens qui disent, on a oublié l'histoire, le peuple, les Noirs de France, c'est faux ! Moi j'ai été pétri de ce truc-là. Pardon Françoise, je referme la parenthèse.
Non, mais, bon, c'est un bon plaidoyer et bon, je vais dire tu, même si c'est pas naturel. Oui, ça me fait très plaisir d'entendre ça, parce que je pense à tous les collègues qui ont transmis cette histoire que nous connaissons, tous ces grands moments qui nous ont marqués. Hein. Moi, je sais que j'ai été très marquée aussi par la période de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est pour ça que je suis devenue prof d'histoire. Mais tous ces grands moments, les élèves, écoutaient, parce que bien sûr, il fallait les prendre aux tripes aussi. Il y a aussi ça dans la transmission de l'histoire, cette passion de l'histoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les instructions que nous avons toujours eues, ça a été effectivement de transmettre ce savoir, cette connaissance, parce que il n'est pas d'avenir possible sans que nous gardions la mémoire. Si nous n'avons pas la mémoire de notre société, alors nous allons vers toutes les barbaries. Voilà, c'est pour ça que il faut transmettre ça. Il faut transmettre.
Françoise.
Mais notre pays, la France. Moi, tout à l'heure, j'ai été, un petit peu triste d'entendre votre interlocuteur dire je suis noire, mais je suis français. Oui, ben moi, je dis pas je suis blanche et je suis française. Je suis française tout court. Voilà. La France, c'est
Françoise,
ça.
Françoise, est-ce que tu m'autorises à recéder quelques instants la parole à Aliou pour qu'il te réponde ?
Aliou, il a forcément entendu
ses arguments, et c'est des arguments forts, c'est un plaidoyer fort. Aliou, c'est quand même simple à comprendre. J'ai commencé par ça tout à l'heure. J'ai dit, souviens-toi de la période où, enfant, tu étais à l'école, et où à l'école, toute cette histoire-là, y compris l'histoire de l'esclavage et du colonialisme, on te l'a enseignée.
Oui, bien évidemment. Bonjour Françoise, je vais d'abord rebondir à ta dernière phrase qui vous dites que vous êtes française, vous n'avez pas besoin de vous dire que comme quoi vous êtes blanche ou quoi que ce soit. Bien évidemment, quand à longueur de journée, on vous bassine à la télé que comme quoi la France est de culture et de race blanche et de culture chrétienne, forcément vous n'avez pas le sentiment.
Et où est-ce que tu vois qu'on rabâche ça à longueur de journée, Aliou? Mais où est-ce que tu vois ça?
Non mais vous m'avez compris, Monsieur Neumann.
Bah non, j'ai pas compris.
Juste pour vous dire qu'en France, ce n'est pas pareil quand vous trimballez dans la rue en tant que blanc, on ne vous regarde pas en tant qu'immigré, par exemple. Moi, en tant que noir, quand je me trimballe dans la rue, même quand je dis français, la première chose qu'on me dit, on ne me dit pas « t'es français », on me dit « tu viens d'où ?»
Mais il faudrait qu'on marche dans la rue ensemble. Hein. Alors moi, je ne suis pas noir, mais j'ai des copains noirs mais qui ne pensent pas ça du tout, mais du tout, du tout.
Mais ce n'est pas parce qu'ils ne pensent pas ça et que moi je le pense que forcément...
Oui, si tu veux, d'accord.
Monsieur Brunet, mais pour revenir à ce qu'on disait, encore une fois...
Oui.
On t'a perdu. Aliou.
C'est bon, Aliou. On t'a perdu.
Ah bah ça y est.
On l'a perdu. Bon, on va revenir vers Françoise. C'était passionnant, cette enseignante, professeure d'histoire à la retraite. Bon, on a entendu la réponse d'Aliou, Françoise, mais ça remet pas fondamentalement en cause les choses. On est au moins d'accord sur une chose, c'est que l'école de la République, depuis l'après-guerre, elle a fait le travail pédagogique que certains d'ailleurs lui reprochent, à mon avis injustement, de ne pas avoir fait. Elle l'a fait, le boulot qui consiste à dire la France, ça a été le colonialisme, la France, ça a été aussi l'esclavagisme. Voilà, on le sait, moi j'ai appris tout ça. Ouais, et toi aussi, Laurent.
Ah mais non, mais moi aussi. Et je vais te dire, la première fois où je suis allé à Bordeaux, j'ai un copain historien, alors spécialiste de la Seconde Guerre mondiale en l'occurrence, qui m'a pris par la main et qui m'a emmené dans les caves à Bordeaux, caves des immeubles, les caves des maisons particulières dans le centre de Bordeaux, pour me montrer que dans les caves il y avait encore les anneaux attachés dans le mur, là où on attachait les esclaves.
Quai des Chartrons, à Nantes, c'est le quai de la Fosse, évidemment. Où il y a tous ces hôtels particuliers qui ont été construits par les familles d'arbateurs qui faisaient le trafic triangulaire. Françoise.
Au-delà de ça, moi je voudrais aussi ajouter quelque chose. Je vois que dans mon pays, effectivement, ben, on détruit, on saccage. Moi, ça me fait mal. Vraiment, ça me fait très mal. L'autre jour, j'ai lu, je ne sais plus dans quel journal, qu'on avait débaptisé un lycée Colbert. Je crois que c'est dans le nord de la France. Et on l'a baptisé du nom de Rosa Parks. Très bien. Pourquoi pas donner le nom d'une militante des droits de l'homme, et en tout cas une militante américaine qui s'est battue pour les droits de l'homme, et surtout la reconnaissance donc de la ségrégation raciale et de lutter contre. Mais pourquoi avoir enlevé le nom de Colbert?
Oui. Attendez. Françoise, oulala, ça m'intéresse. Si vous êtes d'accord, vous restez quelques minutes avec nous. On se retrouve dans une minute ou deux. Et moi, j'aimerais beaucoup que la prof d'histoire que vous êtes nous parle une seconde de Colbert, parce que beaucoup de gens autour de moi, mes propres enfants, me disent « Papa, Colbert, le code noir ». J'ai dit « Mais mes chéris, révisez un peu, Colbert, c'est pas le code noir, moi, je... » Donc, est-ce que vous... restez avec nous si vous êtes d'accord, Françoise, et on fait un petit point sur Colbert dans une minute. Vous êtes d'accord ?
Tout à fait, Eric.
Eh bien voilà, à tout de suite. À tout de suite, mesdames, messieurs, on se retrouve dans une minute dans Brunet Neumann sur RMC.
RMC, midi 14h.
Brunet Neumann.
Éric Brunet.
Laurent Neumann.
La statue de Colbert devant l'Assemblée nationale vandalisée hier, mardi. L'auteur d'ailleurs a été arrêté et ils avaient inscrit sur la statue « Négrophobie d'État ». Et on vous pose la question, les amis, est-ce que ça vous choque? D'ailleurs, on prend l'exemple de la statue de Colbert, Gallieni, même chose, Federbe, même chose.
Tu sais, même chose, Laurent. Je voudrais juste ajouter un truc, j'ai pas mal pensé pendant la pub à l'instant. Gallieni, Federbe, pour beaucoup de Français, mais Colbert, pour moi, c'est l'école. Moi, Colbert Richelieu, grand commis de l'État, moi, on m'a appris à l'école. Je suis pas un expert ni un chercheur en histoire. Je suis pas un chercheur d'histoire au CNRS. Mais moi, on m'a appris...
C'est l'ancêtre du ministère des Finances, Bercy.
Ouais, voilà.
Ah oui.
Que Colbert, c'est un des fondateurs de l'État. en France, de la notion d'État, Colbert, Richelieu, etc., qui préfigurent sous l'Ancien Régime que va être la République.
La levée de l'impôt.
La levée de l'impôt. Bon, voilà, alors ça, c'est déjà moins agréable. Mais non, je dis ça parce que c'était l'idole des profs d'histoire, Colbert, on peut le dire. Voilà, Colbert, on ne te l'a jamais présenté à l'école comme un mec. D'ailleurs,
quand tu étudiais le XVIIe siècle, ouais. Colbert, voilà. C'était un des personnages majeurs. Ouais.
Alors, il y a une histoire là, qui a été évoquée tout de suite, Lisa Marie, qui concerne un lycée ou un collège Colbert.
Oui, Françoise l'a mentionné avant la pause. À Saint-Germain-de-Thionville, dans le Grand Est, le lycée Colbert sera débaptisé et renommé Rosa Parks en hommage à l'activiste afro-américaine, emblème de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Et la région Grand Est a précisé que le choix du nom, enfin ce changement de nom, est antérieur aux manifestations antiracistes.
Est-ce que c'est syndrome de Stockholm? Pourquoi est-ce que... Donc ça veut dire qu'on est dans un processus de débaptisation.
Oui, je sais pas.
Débaptise les Colbert. Alors il va y avoir les Jules Ferry. On va beaucoup.
Ouais, sauf que Colbert c'est l'histoire de France, Rosa Parks c'est l'histoire des ouais, États-Unis. Ouais. Et Dieu sait si Rosa Parks a joué un rôle extrêmement important. Alors, c'est pas l'histoire de France.
On va voir si notre prof d'histoire a bossé et qu'elle nous dise. Je pense à beaucoup d'enfants aujourd'hui pour qui Colbert c'est le code noir, c'est un monsieur raciste, c'est pas bien ce qu'il a fait. Je simplifie à outrance. Que Françoise, prof d'histoire qui nous a appelé au 32-16, nous dise qui est Colbert et pourquoi il a été enseigné avec autant d'enthousiasme par des générations d'enseignants sous la 3e REP, sous la 4e REP, sous la 5e REP. Bonjour, bonjour Françoise.
Bonjour. Alors, une petite précision. J'ai été 20 ans proviseur et dans une autre vie, j'ai été professeur d'histoire-géographie. Pas longtemps, mais bon. J'ai pas eu le temps de me redocumenter sur Colbert, mais précisément, c'est un peu exprès. Parce que je voulais ressortir ce que j'avais en mémoire.
Oui.
Et ce qui me revient tout de suite en mémoire, c'est de dire Colbert, il a voulu jeter les fondements d'un État moderne, un État moderne qui produit. J'ai en tête les manufactures, j'ai en tête toute notre industrie, les bases, si vous voulez, de notre société qui vont donner naissance après à l'industrie. Ça, vous voyez, moi je vais faire un petit peu d'histoire locale. À côté du village où j'habite, il y a un village qui s'appelle Bayel. Mmh. À Bayel, il y a, une fabrique, une manufacture qui a été fermée il n'y a pas longtemps, mais qui faisait du verre. Elle a été créée par Colbert. Et ben depuis Colbert, cette fabrique de verre, le verre de Bayel, a donné le verre de Bayel, mais a aussi donné du travail à toute cette vallée. On a fermé ça. Alors voilà, vous voyez, l'histoire, elle vit. L'histoire, c'est comme le levain. L'histoire, c'est la vie des hommes en mouvement. J'entends ces hommes et ces femmes qui disent « Nous, on a le sentiment qu'on est rejetés. Regardez bien tout ce qu'est la France et tout ce qu'a fait la France. Il faut avoir cette volonté aussi de s'intégrer. Voilà, aimer notre pays. » Voilà, moi c'est le message que je lance.
Françoise, attends juste une chose. Françoise, reste avec nous, parce que tu vois le message que tu adressais il y a quelques instants à Aliou. Je voudrais que tu l'adresses de la même manière, et il l'a sans doute entendu, à Gilbert, qui nous appelle de la Ferté-sous-Jouarre en Seine-et-Marne.
Pas loin de chez moi.
Bah oui. Justement, c'est pas très loin de chez toi. Bonjour Gilbert, bienvenue sur RMC.
Bonjour Gilbert. Bonjour.
Bonjour Eric, et bonjour M. Neyman.
Voilà, et moi je voulais qu'on te prenne à l'antenne.
Lui dit bonjour, Eric et Monsieur Neumann. Il y a une espèce de respect pour toi.
Il y a un peu plus de respect pour moi. Respect. Ou alors il a oublié mon prénom, c'est tout.
Bon, Gilbert, rapproche-toi de ton téléphone, ça on a l'impression que t'es enfermé dans tes toilettes. Et on t'écoute. Est-ce que tu comprends, toi, ceux qui ont tagué négrophobie d'État sur la statue de Colbert qui est taguée devant, qui est placée devant l'Assemblée nationale?
Oui, Monsieur Brunet, ouais. Je comprends. Je ne fais pas partie d'aucune association revendicative et tout.
Ouais.
Mais tout simplement, je suis plutôt descendant. Enfin, je suis d'origine africaine.
Ouais.
J'ai eu des parents qui ont eu la chance de ne pas côtoyer ce dont Colbert avait envoyé là-bas,
ouais.
Avec le code de noir en main. Donc, c'est le message que les taggeurs ont fait, c'est tout simplement pour dire que. C'est que nous vivons aujourd'hui ici et ailleurs, c'est plutôt parce qu'il y a eu ces codes noirs-là. Parce que M. Brunet et M. Neumann, je peux vous dire que Monsieur Brunet vient de dire que lui, il refuse la recontextualisation.
La décontextualisation, oui.
Voilà. Mais monsieur Brunet, vous vous rendez compte, le maréchal a été vénéré par certains présidents de la Ve République. Mais est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui, où les futurs présidents de la République oseront aller gerber la tombe de maréchal?
Maréchal Pétain. De quel maréchal? Pétain de
Maréchal Pétain. Pétain. Maréchal, ouais. Pétain.
Alors attends Gilbert, je t'arrête tout de suite parce que ça c'est intéressant comme argument. Parce que Gilbert, ton argument sur le maréchal Pétain est intéressant. Il se trouve que j'ai eu une discussion similaire avec un ami français d'origine africaine, malien en l'occurrence, qui me disait mais est-ce que toi Laurent, évidemment il ne justifiait pas hein, le l'idée de déboulonner les statues, mais il comprenait ceux qui pouvaient en avoir l'idée. Et il me disait est-ce que toi Laurent, tu accepterais de vivre au 18 de la rue Pétain. Et bah non, il me dit d'ailleurs il n'y a pas de rue Pétain.
Et il y en a eu dans tous les villages de France pendant 40 ou 30 ans.
Et il y en a plus.
Enfin 20.
Et il y en a plus. Et je lui ai fait remarquer parce que ça m'a bousculé comme argument. Et en fait, je lui ai fait remarquer que Pétain c'est contemporain de ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui.
Non.
Il y a des gens, écoute-moi jusqu'au bout.
C'est pas ça l'argument.
Écoute-moi jusqu'au bout. Il y a des gens qui ont connu le maréchal Pétain, le bon Pétain, celui de 18, et le mauvais, celui de 40 et de l'occupation pendant la guerre. Alors que Colbert, c'est 3 siècles et demi. Ceux qui vivent aujourd'hui en France ne peuvent pas être jugés pour encore responsables de ce qui a pu se passer à ce moment-là. Mmh. Comme d'ailleurs, les gens peuvent pas être responsables de ce qu'a fait Pétain. Mais en revanche, l'histoire, oui, il faut la regarder en face. Pas de rue Pétain, oui, mais des statues Colbert, je vois pas où est le problème.
Non. Alors, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est que au moment de Pétain, il y a en Europe une bonne partie des Européens qui sont dans une autre voie que la collaboration avec le Troisième Reich. L'idée de résistance à la dictature antisémite et folle d'Hitler, elle est partout, des intellectuels qui sont extraordinaires, des résistants, des communistes, des gens de droite, même des résistants d'extrême droite d'ailleurs, puis ils sont les premiers résistants en 1940 en France, des royalistes. Bon bref, des gens résistent. Il n'y a pas que Pétain comme issue. Donc les gens qui choisissent Pétain, ils choisissent le parti de la collaboration avec le Troisième Reich. En revanche, si tu prends l'exemple du XVIIe siècle, toutes les sociétés pratiquent l'esclavage. L'esclavage. Toutes les sociétés européennes, en Amérique, en Caraïbes, il y a des esclavages dans tout le temps, tous les sens, puisque les sociétés arabes vont davantage d'ailleurs pratiquer l'esclavage des Noirs que les sociétés blanches. Elles vont le pratiquer avant et même après les sociétés blanches. Donc même si tu vas chez les Incas, chez les Mayas, chez les précolombiens, l'esclavage existe. Il y a des milliers de formes d'esclavage. Donc ce que je veux dire, c'est que l'homme du XVIIe siècle, Laurent, l'homme du XVIIe siècle ne dit pas « je suis contre l'esclavage, ça n'existe pas ». C'est un fait social qui est éminemment condamnable.
Il faut quand même que toi et moi, et peut-être on posera la question à Françoise, qui est restée avec nous, mais il faut quand même répondre à Gilbert, parce que Gilbert, il met le doigt sur quelque chose qui est absolument juste. Oui, pendant de longues années, le président de la République, François Mitterrand, a fait déposer une gerbe sur la tombe du maréchal Pétain.
À l'Île-Dieu.
Absolument.
À l'Île-Dieu.
Et l'explication qu'il donnait, et on peut en débattre d'ailleurs, mais l'explication qu'il donnait, c'est qu'il ne déposait pas une gerbe sur la tombe du Pétain de 40 et de l'occupation, mais sur la tombe du Pétain de 18, le héros de la Première Guerre mondiale.
Le vainqueur de Verdun,
le héros, l'un des héros de la Première Guerre mondiale en France, et aux yeux de tous les Français, de l'époque. Et là, pour le coup, ça se discute. Mais François, pardonne-moi si je te tutoie, mais j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce qu'on répond à Gilbert ou à mon ami d'origine malienne? Pas de rue Pétain, alors pourquoi des statues de Colbert?
Mais encore une fois, je crois qu'il faut avoir les pieds sur terre et savoir qu'il y a eu la guerre, il y a eu la résistance, il y a eu la libération. Il y a des actes qui ont été actés par notre gouvernement en place à l'époque, qui étaient d'écarter tout ce qui pouvait se rapporter au Pétain qui avait collaboré avec l'ennemi, au Pétain de Montoire. Voilà. Ça pour moi, c'est très clair. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Laurent Neumann. Il n'y a aucun problème, j'ai aucun problème avec ça. Bon, moi, ce qui m'interroge quand même, le fond, ce qui m'interroge, alors qu'il y a tous les professeurs d'histoire, et vraiment j'inclus tous mes collègues parce que c'est une solidarité entre nous, mais je le reconnais. On a enseigné avec notre cœur, avec nos tripes, justement, cette période, y compris la colonisation, en expliquant ce qui s'était passé. Mmh. Moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est pourquoi des hommes et des femmes noirs se posent cette question. Voilà, ça m'interroge, parce que l'école a fait son travail. L'école a fait son travail. Je ne comprends pas cela. Bon, ça m'interpelle parce que il y a une réelle incompréhension de ma part de cette situation. J'entends la voix de ce monsieur qui habite à La Ferté, Gilbert, je crois.
Oui.
J'entends votre interlocuteur précédent. Je suis pas d'accord avec eux.
Mais François, c'est simple. On est rentré dans une période de victimisation et il y a des gens qui en rajoutent. Il y a des gens qui sont en colère et qui vont utiliser cet argument victimaire. Moi je suis d'accord avec toi, Françoise. À l'école de la République, j'ai appris toutes les horreurs de l'esclavage dans tous les détails. Je peux te parler du commerce triangulaire qui a été fait à Saint-Malo, à Nantes, à Bordeaux, dans les principaux ports de la façade atlantique française sous l'ancien régime. Je peux te parler de l'histoire du quai de la Fosse, qui était l'endroit où tous les armateurs qui avaient ces bateaux esclavagistes ont construit leurs hôtels particuliers dans l'ancien régime. Donc je le sais, on le sait tous, on l'a appris, on a culpabilisé collectivement nous les jeunes Français dans les années 60 et 70. Donc tu as raison, le boulot a été fait et je ne comprends pas comment aujourd'hui les gens viennent dire « Ah ben je comprends pas, la France est esclavagiste, on ne s'est jamais occupé des Noirs ». C'est faux, on le sait, on l'a dit et fort heureusement, et c'est une bonne chose, l'école ne s'est pas trompée, l'école de la République a répondu présente dès l'après-guerre pour expliquer aux jeunes Français ce qu'a été le colonialisme et, pour revenir sur le cas d'aujourd'hui, ce qu'a été l'esclavagisme.
Je veux qu'on embrasse Françoise quand même, qui nous a administré une belle leçon d'histoire, une belle leçon de pédagogie aussi. Et puis on va remercier Gilbert, hein, qui nous appelait de la Ferté-Sougeoire. Merci à tous les deux. Puis vous, les amis, vous continuez à nous appeler au 32-16. Est-ce que cette statue de Colbert vandalisée à l'Assemblée nationale à Paris, est-ce que ça vous choque ou pas? Vous avez compris que pour une fois n'est pas coutume, Eric et moi, on était plutôt d'accord. Oui, on est choqués. Pas forcément d'ailleurs pour les mêmes raisons, mais vous avez le droit de pas être d'accord. On vous attend au 32-16 et Brunet Neumann. On revient sur RMC dans un instant. À tout de suite.
RMC, midi 14h.
Brunet Neumann.
Éric Brunet.
Laurent Neumann.
Statue de Colbert vandalisée à l'Assemblée nationale à Paris. Est-ce que cela vous choque? Je rappelle, Laurent, qu'on a écrit sur la statue de Colbert, sur son socle, négrophobie.
Badigeonner à la peinture rouge.
La peinture rouge. Voilà. Beaucoup de messages. Moi, j'en lis deux que j'ai reçus. Il y a plein de compagnons de la libération noire. Ils sont honorés par la République comme les autres. Ils ont été élevés au rang de compagnons de la libération. J'ai un autre message qui dit que chaque année, les Français élisent comme Français préféré dans un sondage le comédien Omar Sy, que c'est un témoignage. Je pense qu'il veut dire par là que c'est un témoignage du fait qu'il n'y a pas de racisme endémique dans la société française. C'est comme ça que j'interprète ce message.
Lisa-Marie, il y a d'autres messages.
J'ai un message de Colette sur Facebook qui nous dit: je suis scandalisée par toutes ces statues qui en France, en Angleterre et aux USA sont vandalisées. Et elle ajoute: il est vrai aussi que je ne dirai rien si on déboulonne un jour la statue de Macron ou celle de Hollande, etc., etc. Mais je ne crois pas qu'ils auront une statue, les pauvres.
Et voilà, ils n'ont pas de statue, donc ça risque pas d'arriver.
Oui, il y a Christophe Colomb en Amérique, hein, beaucoup, les statues de Christophe Colomb qui sont menacées.
C'est à Barcelone, c'est Manuel Valls qui nous racontait l'autre jour que certains rêvent de déboulonner la statue de Christophe Colomb, hein, qui est en bas des Ramblas à Barcelone, en arrivant sur la façade maritime.
À titre personnel, moi qui suis un fou d'histoire, tu le sais, je rappelle que le papa d'Alexandre Dumas, pour moi, qui est un des plus grands écrivains français, était alors métisse, et que Alexandre Dumas, qui a écrit mon livre préféré, Les Trois Mousquetaires, était carteron, comme on dit, c'est-à-dire qu'il avait un quart de sang noir, j'imagine, que c'est ce que
Gascons,
ça veut dire.
Hein, c'est des Gascons, non?
Non, 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 là tu confonds avec Alexandre Dumas.
Genre Les Trois Mousquetaires.
Ouais. Ah ben c'est D'Artagnan, il est du Gers.
Il est du Gers, c'est ça.
Oui, D'Artagnan, il est du Gers, oui, ça oui.
Allez, on va du côté du 32-16.
Alors, bonjour, on embrasse qui, on salue qui?
Ludovic.
Ludovic, qui est du côté de Lyon. Salut Ludovic.
Ludovic?
Es-tu là, Ludovic?
Oui, oui.
Ah, voilà. Bah voilà, on t'avait perdu. Qu'est-ce que tu fais dans la ville, Ludovic, à Villeurbanne?
Moi, je suis ingénieur. Je fais de la gestion de projet dans les télécoms.
Bon, tu as évidemment, si tu nous appelles, c'est que tu as vu toute cette actualité, ces statuts que certains veulent déboulonner, d'autres vandaliser. Tu en penses quoi ?
Eh bien, bien sûr, j'ai vu l'actualité. C'est impossible de passer à côté. Moi, l'avis que j'aurais un petit peu, c'est il est un peu partagé dans le sens où je commencerai par dire que de nos jours, ce que je constate, c'est qu'il est impossible de défendre une cause, peu importe laquelle, sans verser dans les extrêmes de part et d'autre, que ce soit les personnes qui soient pour ou qui soient contre. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage pour le débat et ça n'amène vraiment aucun argument qui puisse faire avancer.
Tu veux dire, c'est la stratégie c'est la stratégie fémène. Si tu veux faire connaître, tu pètes tout. C'est la stratégie de l'OLP.
Ouais. Voilà, c'est la stratégie sans rentrer dans les mauvais jeux de mots, blanc ou noir, quoi. Il n'y a pas de teinte de gris. Or, on sait que la société, elle est teintée de gris.
Ouais.
Voilà. Donc,
et l'histoire de France, l'histoire en général est grise. Évidemment, il y a des choses absolument magnifiques et des choses terribles.
Ouais.
Exactement. Et dans le cas de Colbert, certes, la forme dont c'est fait, ou même dans le cas d'autres statuts, la forme qui est utilisée pour faire revendiquer ce genre de choses, certes, elle pose débat. Mais après, ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est est-ce que ces personnes-là n'ont pas crié avant pour faire écouter leur voix et est-ce qu'on ne les a pas entendues? Peut-être que c'est ça aussi le problème. Ouais. Peut-être.
Ouais, il y a un élément qui me semble super important, Ludovic, c'est que la statue et le moment où elle a été érigée fait partie de l'histoire. Aujourd'hui, en 2020, peut-être qu'on ne ferait pas une statue à Colbert. T'as vu, on a rebaptisé un bahut dans l'Est, Rosa Parks. Mais on fait, d'ailleurs, il y a des historiens qui se sont penchés sur les monuments aux morts après la guerre de 14-18, pourquoi, qui, etc. Et de la même façon, quand on fait ces statues, on est en train d'essayer de... La République est en train d'essayer de drainer avec elle l'ancien régime. Il y a cette idée qu'il y avait des serviteurs de l'État sous l'ancien régime, et donc Colbert et Richelieu en font partie. Donc on est en train d'essayer de jouer la continuité à travers les régimes. Donc la statue, elle fait aussi partie de l'histoire.
Ouais, moi ce qui m'inquiète, tu vois, dans cette histoire, c'est l'enchaînement de l'actualité. Mmh. Tu as l'assassinat de George Floyd aux États-Unis dans des conditions absolument scandaleuses. Il y aura un procès, on parle de racisme aux États-Unis, ça déclenche le mouvement Black Lives Matter, qui lui-même est importé dans plusieurs pays européens, en France mais pas seulement. Et puis, il ne s'agit plus de faire l'amalgame entre Adama Traoré et George Floyd. Maintenant, on va plus loin. On veut déboulonner des statuts. Ça devient la question noire en France, alors que les États-Unis et la France, de ce point de vue-là, c'est pas pareil.
Bah oui.
Donc, on importe des choses en France, on importe des combats ailleurs. C'est pas la première fois, d'ailleurs. Mais cet effet domino est absolument catastrophique. Oui. Et je rejoins Ludovic. C'est vrai que désormais, pour défendre une cause, il n'y a que les moyens extrêmes.
Il y a un mec qui va aller taguer le château de Versailles. Puis
figure-toi, mon petit Eric, que la brigade anti-négrophobie, qui est l'auteur de cette opération de vandalisme, l'auteur a d'ailleurs été arrêté. Ouais. Je suis pas sûr qu'il représente grand monde. Voilà.
D'accord.
Mais pourtant, on ne parle que de ça. Ouais. Ludovic, merci de nous avoir appelé. Villeurbanne, vous avez été très très nombreux à réagir, et c'est le moment de savoir comment vous avez voté. Non pas pour départager Eric et moi, parce que une fois n'est pas coutume, on était d'accord aujourd'hui. Mais comment vous avez voté ? Plutôt de notre avis ou pas ?
Lisa Marie, on t'écoute.
Alors, on vous a donc posé la question, est-ce que vous êtes choqué que la statue de Colbert ait été vandalisée devant l'Assemblée nationale ? Et vous nous avez répondu oui à 95%, donc vous êtes 95% d'accord avec Eric et Laurent aujourd'hui.
Allez, on va changer complètement de sujet, à 13h. Bah oui, parce que figure-toi qu'on soit optimiste ou pessimiste à propos de cette épidémie de coronavirus, on est obligé de noter que 600 000 Allemands ont été reconfinés, que le protocole sanitaire est en train d'être renforcé au Portugal et en Espagne.
On fera un point complet sur le Covid-19 dans le monde, parce qu'effectivement, tu as raison, ça bouge. Europe et dans le monde entier.
Et oui, et forcément, on se pose la question. Moi, je dis que les Français sont un peu trop insouciants et je crains que des confinement comme en Allemagne ne soit inévitable en France.
Ouais.
J'ai peur de ça,
le redoute. Je pense qu'il faut arrêter quand même de culpabiliser les gens, même si longtemps j'ai eu peur de cette maladie. Pour l'instant, elle ne décroît pas. Enfin, elle décroît fortement en France, et elle ne repart pas. Et donc, allons-y mollo, c'est pas la peine de flipper inutilement. On respecte les gestes barrières, on porte le masque dans les lieux publics, et puis voilà, quoi.
Donc, on attend évidemment votre avis au 32-16. On vous attend nombreux, et Brunet Neumann revient dans un instant sur RMC.
RMC, midi 14h, Brunet Neumann.